VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Gambie, toujours pas de dénouement de la controverse due au refus du président sortant Yahya Jammeh de reconnaître sa défaite aux récentes présidentielles. Une délégation de 4 chefs d'État ouest-africains était hier à Banjul pour rencontrer les protagonistes de la crise et essayer de convaincre Yahya Jammeh d'accepter le verdict des urnes. Mais rien de concret n'est sorti de cette visite. De son côté, le parti présidentiel a déposé mardi un recours pour contester les résultats du scrutin du 1er décembre. Donnant M. Jammeh perdant face au leader d'opposition Adama Barrow. Les explications d'Abdourahman Dia.
L'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction, le parti du président Yahya Jammeh, demande à la Cour suprême d'annuler les résultats de l'élection car la commission électorale n'aurait pas compilé les résultats correctement. Selon la commission, Adama Barrow devance de quelque 19 000 voix Yahya Jammeh qui avait dans un premier temps reconnu sa défaite avant de se raviser. Quelques heures plus tôt, les forces de sécurité avaient bloqué l'entrée des locaux de la commission électorale, démontrant que Yahya Jammeh avait toujours contrôle sur l'armée et la police. Le président de la commission électorale dit même craindre pour sa sécurité. Les chefs d'État envoyés par la CEDEAO ont donc trouvé à Banjul une situation tendue. N'empêche, le président nigérian Muhammadu Buhari a déclaré qu'ils ont rencontré un Yahya Jammeh très réceptif, alors qu'Ellen Johnson Sirleaf du Liberia a indiqué que la délégation n'était pas venue à Banjul pour un deal, mais plutôt pour aider les Gambiens à trouver une solution vers une transition. Pour l'heure, rien n'indique que Yahya Jammeh est prêt à quitter le palais présidentiel au profit d'Adama Barrow.
En Guinée-Bissau, le gouvernement formé par Oumarou Sissoko Embalo a finalement prêté serment mardi, près d'un mois après la nomination par le président José Mario Vaz de nouveau Premier ministre pour sortir le pays d'une longue crise politique. Les détails avec Nani Talani.
Les membres de la nouvelle équipe ont juré de remplir leurs fonctions avec droiture et abnégation. Elle est composée de 37 membres, dont 4 femmes. La plupart des membres de l'ancien gouvernement ont été reconduits. Parmi les arrivants figurent le ministre des Affaires étrangères, Georges Malou, du Parti de la Rénovation sociale, première formation de l'opposition, et 3 dissidents du parti au pouvoir. Les finances sont confiées à Diao Mamadou Fadia, actuellement directeur du bureau local de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. 2 petites formations ont reçu les portefeuilles du commerce et du tourisme. Lors de la cérémonie, le Premier ministre Embalo a remis au chef de l'État une enveloppe contenant une déclaration de ses biens et a demandé aux membres du gouvernement de faire de même dans les 48 heures. C'est pour marquer une différence dans la gestion. Nous devons tous donner des preuves de transparence, surtout quand nous gérons des biens publics, a-t-il déclaré.
En Côte d'Ivoire, les candidats indépendants veulent créer la surprise aux prochaines législatives. Pour la plupart des dissidents de la coalition du président Alassane Ouattara, le Rassemblement des Soufouettistes pour la démocratie, ces indépendants veulent changer le caractère monocolore de l'Assemblée nationale ivoirienne dont les 255 sièges de députés sont en jeu. Ferro Bali, un journaliste ivoirien, estime que ces indépendants vont largement influencer le scrutin législatif du 18 décembre. On l'écoute.
Nous espérons que les indépendants qui sont les plus nombreux d'ailleurs, ils sont les plus nombreux, ils constituent plus de la moitié des candidats actuellement retenus, que ces indépendants pourraient constituer un bon groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, permettant un peu d'équilibrer les débats. Parce que l'Assemblée nationale de 2011 à 2016 était une caisse de résonance, il n'y avait aucun débat, tous les projets passaient comme des lettres à la poste. Et le nombre pléthorique d'indépendants pourrait permettre de constituer un bon groupe parlementaire pour équilibrer un peu les débats, pour enrichir les débats à l'Assemblée nationale, parce que d'un pays comme la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui de retrouver un peu des lettres de noblesse démocratique au niveau des débats parlementaires, parce que c'est là-bas que se décident toutes les lois et tous les grands textes qui engagent l'avenir du pays. Et donc, il serait intéressant que ces nombreux candidats indépendants puissent tenir la dragée haute et donc pouvoir être une force politique qui compte au niveau de l'Assemblée nationale.
Le journaliste ivoirien Ferro Bali était en ligne d'Abidjan. Au Nigeria, Médecins Sans Frontières tire la sonnette d'alarme sur la situation humanitaire dans le nord-est du pays, où les conditions de vie auraient atteint des niveaux catastrophique. Débordé par les 1,6 million déplacés dans le seul état de Borno, les autorités nigériennes tentent aujourd'hui de convaincre les personnes concernées de rentrer dans leur foyer, assurant que la sécurité est revenue. Mais dans le nord, même si l'insurrection de Boko Haram est largement affaiblie, l'instabilité et les combats sporadiques isolent toujours une grande partie de la région, qui est d'ailleurs placée sous embargo militaire. Ici aux États-Unis, l'ancien ministre guinéen des mines, Mahmoud Thiam, a été arrêté pour corruption. Mahmoud Thiam, 50 ans, qui a également la nationalité américaine, a été appréhendé mardi matin à New York où il réside. Il lui est reproché d'avoir reçu environ 8,5 millions de dollars de deux entreprises chinoises, filiales d'un conglomérat non identifié, quand il était ministre des Mines et de la Géologie de la République de Guinée en 2009 et 2010 sous la transition militaire.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, RDC, le gouvernement congolais a suspendu le championnat de football de première division, la Lina Foot, par crainte de violence vers la fin du mandat du président Joseph Kabila. Depuis plusieurs mois, le public de Kinshasa profite des matchs disputés par les équipes de la Lina Foot ou par l'équipe nationale des Léopards pour entonner des slogans hostiles au chef de l'État, dont le mandat arrive à expiration le 19 décembre. Et toujours en RDC, poursuite des négociations pour sortir le pays de l'impasse politique à quelques jours seulement de la fin du mandat du président Kabila, mais sans la coalition autour du parti de Jean-Pierre Bemba, le MLC, le Mouvement de Libération du Congo. Le Front pour le respect de la Constitution, qui a quitté ses assises, reste sur sa stratégie qui consiste à mettre en garde contre la violation de la Constitution nationale. Écoutez le sénateur Raymond Ramazani Baya.
Pour le moment, la décision a été prise de confirmer notre retrait. Mais tous les amis qui nous appellent, tous les partenaires qui veulent que nous continuions à examiner la possibilité et les nouvelles conditions de notre participation, on va les examiner. Nous ne voulons pas fermer la porte. Le dialogue technique veut dire que nous voulons absolument arriver à fixer les échéances du calendrier électoral. Deux, que nous fixions des garanties pour qu'on ne vienne pas dans 4 mois, dans 6 mois, nous dire encore, on n'a pas eu les moyens, on n'est pas prêt parce que nous puissions cette fois-ci nous mettre d'accord que le changement, l'alternance va se faire par les élections et pas toujours à travers des conciliabules, pas toujours à travers des dialogues. Il faut que le cycle électoral puisse être respecté.
Le sénateur Raymond Ramazani Baya du Mouvement pour la Libération du Congo, le MLC. Congo-Brazzaville maintenant, convention de l'opposition sur fond de division dans la capitale Brazzaville. Plusieurs dinosaures ont fait faux bond à ces assises organisées par Claudine Mounari et Charles Zachary Borao, deux leaders d'opposition. Ce conclave des opposants, le deuxième du genre, se voulait une plateforme pour continuer d'appeler le pouvoir à dialoguer et à mettre fin au harcèlement judiciaire. Mais ce fut plutôt une occasion de critique interne. On écoute l'intervention d'André Okumbi Salissa.
Sassou Nguesso n'est pas seul responsable de ce qui nous arrive. Notre responsabilité en tant qu'opposition est largement engagée. Nous sommes responsables de notre manque de constance, de notre porosité, responsables aussi de l'achat des consciences. La consolidation des institutions, la rupture, le vivre ensemble, le statut spécial de l'opposition... Quel chapelet le pouvoir n'a-t-il pas égrené pour mystifier certains d'entre nous ?
André Okumbi Salissa, opposant au Congo-Brazzaville. Le Soudan du Sud a décidé en moins d'une semaine d'expulser deux humanitaires employés par le Norwegian Refugee Council, le RNC, sans en donner la raison, a annoncé mercredi l'ONG norvégienne. Le directeur du NRC pour le pays avait été expulsé vendredi dernier après avoir été détenu pendant une journée par les services de sécurité sud-soudanais et un de ses collègues en charge de l'état de Warab dans le nord l'a été à son tour mardi. C'est ce qu'a indiqué l'ONG norvégienne dans un communiqué. C'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.